opté pour André Frossard, dont c'est le premier anniversaire du décès. André Frossard, l'un des plus grands convertis de ce siècle, un converti mystérieux, à la façon de Saint Paul, qui a été, pour ainsi dire, heurté au cœur par l'Esprit Saint, et qui s'est transformé d'un seul coup. Et André Frossard, c'est la même chose. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. C'est pas pour me vanter, j'ai horreur de ça, mais j'ai très bien connu André Frossard. Je peux dire sans prétention du tout que c'était un grand ami. Et ceux qui ne me croient pas, ben, qu'ils viennent voir les livres qu'il m'a donnés, où il dit bien à l'ami Raymond, et ça me fait beaucoup de chagrin de parler de lui, car je l'aimais énormément, mais Dieu est venu le chercher le 2 février l'an dernier, à 80 ans. C'était un écrivain, un journaliste, dont la grand-mère était juive. C'était une Schwab qui est morte juive. En page 1 du Figaro l'an dernier, son dernier billet dans la célèbre chronique, hein, en première page du journal Le Figaro, il y avait toujours « Cavalier seul ». Tout le monde se précipitait là-dessus. Hein. Bon, tous les gens qui lisaient Le Figaro. La première chose qu'on lisait, c'était « Cavalier seul ». Il en était le responsable depuis 1961 jusqu'en 94, hein, 95 plutôt. Et c'était un chrétien fervent. C'était un interlocuteur privilégié, n'est-ce pas, du pape Jean-Paul II. Et c'est ainsi qu'il a publié ce livre, qui s'est vendu à des centaines et des centaines de milliers d'exemplaires, André Frossard, dialogue avec Jean-Paul II. Et le titre, le sous-titre, c'était « N'ayez pas peur ». Pourquoi « N'ayez pas peur » Vous vous souvenez quand Jean-Paul II a été élu, j'étais là sur la place Saint-Pierre, je m'en souviens encore comme si c'était hier, en 1978, en octobre. Et ce pape, on savait pas qui c'était quand on l'a nommé, hein, Wojtyła, ce nom de famille, laissait croire à des gens derrière moi que c'était un noir africain. Et alors, on a vu cet homme merveilleux qui s'est écrié « N'ayez pas peur ». Et c'est de là que vient le titre de cet ouvrage publié chez Robert Laffont, qui s'est vendu même en livre de poche. C'est un livre extrêmement intéressant, quoi qu'en disent certaines personnes. C'est un livre bien passionnant. Et alors, donc, il était journaliste dès 1934. Son premier succès de librairie a été « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Je vous en lirai des extraits tout à l'heure. C'est superbe. C'est un très beau livre qui a été suivi par un autre qui est encore peut-être plus intéressant, où il reprend le récit de cette conversion miraculeuse qui date de 1935, alors qu'il avait 20 ans. Et le titre de cet ouvrage, ce second livre, c'est « Il y a un autre monde », paru chez Fayard. C'est un très, très, très beau livre, hein, où il dit à un moment donné, pendant une pause, il dit « Mais des gens tenaient absolument à me reconnaître la qualité de juif, en souvenir de ma grand-mère Schwab ». Et une âpre discussion s'ensuivit, dont je sortis juif à 5 ans, puis à 25%. Et c'est ainsi qu'il a été jeté dans un camp de concentration. Il a d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, « La maison des otages ». Il a été enfermé à Montluc. Et c'est le récit de son enfermement qui est très, très beau et qui se termine par un chapitre sur la prière. Hein. Il dit « Il y en avait qui me disaient... Et encore, toi, tu as de la chance, tu es croyant. » Et André Frossard ajoute, « Dans l'imagination populaire, un croyant, ça ne souffre pas. C'est un être surnaturel blindé. La certitude de se réveiller un jour dans l'autre monde, avec des frisettes et une guitare sur les genoux, doit l'emporter sur tout autre sentiment. » Alors, j'aurais beau leur expliquer, leur donner des exemples, et je leur disais, « Voyons, voyons, quand tu vas chez le dentiste... » Et bien sûr que tu seras soulagé en sortant. Ça ne t'empêche pas de te trémousser sur le fauteuil pendant qu'on promène la fraise dans tes dents creuses. de baver pendant que l'opérateur fait de la barre fixe auprès des molaires. Et la religion, c'est pareil. Ça n'empêche pas le mal de mer et les sentiments. Mais rien n'y faisait, disait. Ils insistaient. Ah, si j'étais croyant. Ils levaient les yeux au ciel, à tout hasard. Ils étaient ces gens qui s'imaginent qu'ils prendraient sans se fouler la bonne direction s'ils avaient tous les éléments. Et c'est très vrai, il a dû se défendre, comme tous les croyants, toute leur vie. Que la consolation profonde de la foi, c'est tout autre chose. On souffre, mais on pleure même, comme Jésus a pleuré lorsque son meilleur ami est mort, Lazare. Mais la sérénité profonde, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Et justement, dans un de ses billets, Le cavalier seul, en première page du Figaro, il écrivait, et je vous donne un exemple de ce que ça peut donner, je vous le lis au complet parce que c'était toujours très court. C'est un bien mauvais procès que l'on fait à Jean-Paul II. Personne n'a œuvré davantage pour rapprocher juifs et chrétiens. Il a été le premier pape à franchir le Tibre. Le Tibre, c'est-à-dire, comme vous savez, le fleuve à Rome pour aller du côté où sont la grande synagogue juive. À Rome. Alors donc, il a été le premier pape à franchir le Tibre pour aller reconnaître au fils de la synagogue une sorte de droit d'aînesse dans la religion révélée. Comment l'archevêque de Lyon peut-il confier à la presse son désarroi devant la visite de M. Waldheim? Vous vous souvenez, M. Waldheim était accusé d'avoir été un antisémite, etc., etc. Et confesser qu'il ne comprend pas cet archevêque de Lyon, avant d'être allé chercher à Rome les explications dont il a besoin. Son désarroi est contagieux. Je commence à le ressentir, moi aussi, quand je vois un homme d'église aussi considérable, parce que l'archevêque de Lyon, c'est le primat de la France, c'est le principal évêque. Un homme d'église aussi considérable et estimable ne pas comprendre qu'un refus d'audience de la part d'un pape n'est pas un geste ordinaire, mais une véritable excommunication, impossible à prononcer avant tout jugement et sans même avoir entendu l'accusé. Il prenait presque toujours la contrepartie des autres, parce qu'il voyait plus loin. André Frossard était un homme extrêmement intelligent, extrêmement brillant. Quand il est mort, Jean-Paul II a évidemment été très ému. Il a célébré la messe à l'intention de son ami, car ils étaient devenus des amis. Et dans une interview qu'il m'avait accordée en 1984, il parlait de ce livre que je vous ai mentionné tout à l'heure, André Frossard, Dialogue avec Jean-Paul II, en disant « Ce n'est pas moi qui ai demandé à Jean-Paul II cette longue interview. C'est lui-même qui me l'a demandé, je n'aurais jamais osé la lui demander. » C'est lui-même qui m'a dit de rédiger des questions. Il les a toutes acceptées, il n'en a refusé aucune. Il disait très simplement qu'il n'était au fond que quelqu'un qui avait posé des questions. André Frossard avait très souvent assisté à la messe du matin avec le pape. Il a partagé ensuite le petit déjeuner dans l'appartement du pape, au troisième étage là, de cet immense bâtiment qu'on appelle le palais apostolique. Et le pape avait confié qu'il appréciait particulièrement toute la capacité d'André Frossard à présenter clairement les questions les plus délicates et les pensées les plus profondes, utilisant parfois l'ironie. Les livres de cet écrivain, qui sont consacrés à ses conversations avec Jean-Paul II, figurent d'ailleurs au tout premier rang dans la bibliothèque personnelle du pape, qui, dit-il, s'y réfère à l'occasion. Je vous rappelle qu'André Frossard est né dans l'Est de la France en 1915. Il a été élève au lycée Buffon, puis à l'école des arts décoratifs à Paris. Avant d'être un journaliste très précoce, à 18 ans, c'est à 20 ans donc que se situe ce qui est au centre de sa vie, cette conversion du 8 juillet 1835. Il était entré dans la chapelle des Sœurs de l'Adoration de la rue d'Ulm à Paris à 17h10, donc à 5h10 l'après-midi, pour y chercher un ami qui l'avait invité à dîner. Et là, une illumination spirituelle, brusque, inattendue, accompagnée d'une joie indicible, le fait instantanément catholique. Mais qu'est-ce qu'il était avant? Il était athée. Plus qu'athée, dit-il, complètement indifférent à la question et aux problèmes que les hommes se posent. Qu'est-ce qu'on fait sur cette planète? Y a-t-il un Dieu, etc.? Il ne se posait même pas ces questions-là. Pas du tout. Dans le village où il est né, dans l'Est de la France, près de Belfort, c'était le village de France le seul où il n'y avait qu'une synagogue et pas d'église. Et alors, ses parents ne pratiquaient absolument aucune religion, et son père était le secrétaire général du Parti communiste français. J'ai bien dit. Vous savez que le secrétaire général du Parti communiste, c'est presque le chef. Vous voulez des preuves de ça? Allez à Tours, en France. Il y a là un musée de cire. Oui, oui, j'y suis allé. C'est dans un très beau bâtiment ancien, d'ailleurs. Et vous verrez qu'à la fondation du Parti communiste en France, et l'homme qui trône là, c'est un monsieur Frossard, et c'est le père d'André Frossard. C'est quand même étonnant la vie de cet homme. Le récit de sa conversion dans Dieu existe, je l'ai rencontré, commence ainsi. Nous sommes le 8 juillet 1935. L'été est magnifique, et devant moi, rectiligne la rue d'Ulm, ouvre sa tranchée ensoleillée jusqu'au Panthéon, qui vit de ce côté a l'avantage de se présenter à peu près d'aplomb. Je n'ai pas de chagrin d'amour. Le soir même, j'ai un rendez-vous. J'ai rendez-vous avec une jeune Allemande des Beaux-Arts, une blonde aux traits délicats, des demoiselles un peu grasses, qui m'a donné à espérer une défense modérée de ses frontières. Mon foi, il est quoi? Il s'adonne au plaisir des sens. Hein? Tout à l'heure, elle sera si complètement oubliée que je ne penserai même pas me décommander. Je n'ai pas d'angoisse métaphysique. Les dernières me sont venues vers 15 ans. L'univers qui m'assiège et m'assourdit de ce que je ne vois pas le moyen d'appeler autrement que sa volubilité muette va me livrer le secret de son existence. Je crois que nos amis socialistes, c'est-à-dire je crois avec nos amis socialistes que le monde est une politique et une histoire. Puis la métaphysique, ou si vous voulez, la réflexion sur le sens de la vie, là, le plus décevant des passe-temps. De toute façon, si je croyais qu'il existait une vérité, les prêtres seraient les dernières personnes auxquelles j'irais la demander, l'Église que je ne connais que par quelques-unes de ses malfaçons temporelles, le dernier endroit où j'irais la chercher. Bon, il y avait un grand mépris de l'Église, une connaissance absolument archi-superficielle. Je n'éprouve enfin aucune curiosité des choses de la religion qui sont d'une autre époque. Or, il est 17h10. Dans 2 minutes, je serai chrétien. Athée tranquille, je n'en sais évidemment rien lorsque, là d'attendre la fin des incompréhensibles dévotions qui retiennent mon compagnon, il était allé là avec un ami, qui retiennent mon compagnon un peu plus qu'il ne l'avait prévu, mon compagnon était allé probablement se confesser. C'était un catholique convaincu. Je pousse à mon tour la petite porte de fer pour examiner de plus près, en dessinateur ou en badaud, le bâtiment dans lequel je suis tenté de dire qu'il s'éternise, mon compagnon. En fait, je l'aurais attendu tout au plus 3 ou 4 minutes. Ce que l'on pouvait voir de la chapelle au-dessus du portail n'était pas particulièrement exaltant. Elle ne gagne rien, que les petites sœurs dont je vais devenir le petit frère me pardonnent. Elle ne gagne rien à être vue en pied, c'est-à-dire, c'est pas une contemplation intéressante, cette chapelle. C'est un de ces édifices en gothique bâtis à la fin du 19e siècle par des architectes décidés à mettre de l'ordre dans le style ogival, et qui lui ont ainsi ôté la vie et le mouvement. Qu'il soit clair que l'émotion artistique n'a aucune part dans ce qui va suivre. L'intérieur n'est pas plus stimulant que l'extérieur. La nef est nettement divisée en trois parties. La première, près de l'entrée, est réservée aux fidèles qui prient dans la pénombre. La deuxième partie est occupée par des religieuses, la tête couverte d'un voile noir, et qui forment de sages rangées d'oiseaux repliés dans leurs travées de bois verni. J'apprendrai plus tard que ce sont des sœurs de l'adoration réparatrice. Relativement peu nombreuses, on verra plus loin que le détail a son importance, elles appartiennent à l'un de ces ordres contemplatifs qui ont choisi la prison pour nous rendre libres, l'obscurité pour que nous ayons la lumière, et dont la morale matérialiste, la mienne encore pour une minute ou deux, veut qu'ils ne servent à rien. Elles disent une sorte de prière à deux voix, qui se répond à elle-même d'un bord à l'autre de la nef pour se résoudre à intervalles réguliers par l'exclamation « Gloria Patris et Filio et Spiritus Sancto » et avant de reprendre le ruissellement alterné de sa navigation paisible. Je ne sais pas qu'il s'agit de psaume. Le fond de la chapelle est assez vivement éclairé. Au-dessus du maître-autel, vêtu de blanc, un vaste appareil de plantes, de candélabres et d'ornements est dominé par une grande croix de métal ouvragé qui porte en son centre un disque d'un blanc mat. C'est sans doute l'hostie, hein? Trois autres disques de même dimension, mais d'une nuance imperceptiblement différente, sont fixés aux extrémités de la croix. Je suis déjà entré dans des églises, pour l'amour de l'art. Mais je n'ai jamais vu d'ostensoir habité, ni même, je crois, d'hostie. Et j'ignore que je suis en face du Saint-Sacrement, vers lequel montent deux fils de cierges allumés. La présence des disques supplémentaires et les complications dorées du décor me rendent plus difficile encore l'identification de ce soleil lointain. La signification de tout cela m'échappe. Debout, près de la porte, je cherche des yeux, mon ami. Et je ne parviens pas à le reconnaître parmi les formes agenouillées qui me précèdent. Mon regard passe de l'ombre à la lumière, revient vers l'assistance, sans ramener aucune pensée, va des fidèles aux religieuses immobiles, des religieuses à l'autel, puis, je ne sais pourquoi, se fixe sur le deuxième cierge qui brûle à gauche de la croix. Non pas le premier, ni le troisième, le deuxième. J'ai toujours, en lisant ce texte, j'aurais dû lui demander à André Froissart, est-ce que c'est pas un signe, un symbole de la deuxième personne de la Trinité, du Christ par lequel il faut passer pour adorer la Trinité et reconnaître Dieu? Peut-être. Dans son texte, André Froissart ajoute, et c'est alors que se déclenche, brusquement, la série de prodiges dont l'inexorable violence va démanteler en un instant l'être absurde que je suis et faire venir au jour, ébloui, l'enfant que je n'ai jamais été. Tout d'abord, ces mots me sont suggérés. Vie spirituelle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé comme ça d'entendre comme une parole au fond de vous-même? Ça arrive, ça. C'est très curieux. Et lui, c'était vie spirituelle. Ils ne me sont pas dits. Je ne les forme pas moi-même. Je les entends comme s'ils étaient prononcés, ajoute André Froissart. Prononcés près de moi, à voix basse, par une personne qui verrait ce que je ne vois pas encore. La dernière syllabe de ce prélude murmuré atteint à peine en moi la rive du conscient que commence l'avalanche à rebours. Je ne dis pas que le ciel s'ouvre. Il ne s'ouvre pas, il s'élance. Il s'élève soudain. Fulguration silencieuse. C'est un cristal indestructible, d'une transparence infinie, d'une luminosité presque insoutenable. Un degré de pluie m'anéantirait. D'une luminosité plutôt bleue. Un monde, un autre monde, d'un éclat et d'une densité qui renvoie le nôtre aux ombres fragiles des rêves inachevés. Il est la réalité. Il est la vérité. Je la vois du rivage obscur où je suis encore retenu. Il y a un ordre donc dans l'univers, et à son sommet, par-delà ce voile de brume resplendissante, l'évidence de Dieu, l'évidence faite présence, et l'évidence faite personne de celui-là même que j'aurais nié un instant auparavant, que les chrétiens appellent notre Père, et de qui j'apprends qu'il est doux, d'une douceur à nul autre pareille, qui n'est pas la qualité passive que l'on désigne parfois sous ce nom, mais une douceur active, brisante, surpassant toute violence, capable de faire éclater la pierre la plus dure, et plus dure que la pierre, le cœur humain. Son irruption déferlante, plénière, s'accompagne d'une joie qui n'est autre que l'exultation du sauvé, la joie du naufragé recueilli à temps, avec cette différence toutefois que c'est au moment où je suis hissé vers le salut que je prends conscience de la boue dans laquelle j'étais sans le savoir englouti. Et je me demande comment j'ai pu y vivre et y respirer. En même temps, une nouvelle famille m'est donnée, qui est l'Église. Toutes ces sensations que je peine à traduire dans le langage inadéquat des idées et des images sont simultanées, comprises les unes dans les autres. Et après des années, je n'en aurai pas épuisé le contenu. Tout est dominé dans, par la présence de celui dont je ne pourrai plus jamais écrire le nom sans que me vienne la crainte de blesser sa tendresse, devant qui j'ai le bonheur d'être un enfant pardonné, qui s'éveille pour apprendre que tout est don. Et il termine en disant, dehors, il faisait toujours beau. C'est comme si j'avais 5 ans. Et ce monde antérieurement fait de pierre et de goudron, là, de la rue d'Ulm, de Paris, était un grand jardin où il me serait permis de jouer aussi longtemps qu'il plairait au ciel de m'y laisser. Villemain, c'est le nom de son ami, ça. Villemain qui marchait à côté de moi, mais qui semblait avoir découvert quelque chose de singulier dans ma physionomie, me regardait avec une insistance médicale. « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?»« Je suis catholique. » Et comme si j'avais peur de n'être pas assez explicite, j'ajoutais « apostolique et romain » pour que ma confession fût complète. Et son ami lui dit « Tu as les yeux écarquillés ?» Il répond « Dieu existe et tout est vrai. » Et l'autre lui dit, complètement découragé, bien que catholique, « Non, si tu te voyais. » Mais je ne me voyais pas. J'étais une chouette en plein midi qui fait l'expérience du soleil. 5 minutes plus tard, à la terrasse d'un café de la place Saint-André-des-Arts, je racontais tout à mon camarade. Enfin, tout se comprise avec l'inexprimable, je parvenais à dire de ce monde soudain déployé. Je regardais les passants qui allaient sans voir. Et je pensais à l'émerveillement qui serait le leur quand ils feraient à leur tour la rencontre que je venais de faire, sûr que la même aventure leur arriverait tôt ou tard. Je m'amusais par avance à la surprise des incroyants et de ceux qui doutaient sans se douter. Moi, je crois que la plupart des êtres humains ont de ces expériences, ou pas comme celle d'André Froissart, mais qu'il leur arrive un moment. J'ai peine à croire qu'une femme met un enfant au monde et quand elle le prend dans ses bras, qu'elle ne se rend pas compte que c'est Dieu qui le lui donne. C'est pas son mari ni elle qui l'a fait, voyons donc. Comment un père qui assiste à la naissance de son enfant croit que, sorti du sein de sa femme, un être qui est différent d'eux, qui est créé, libre et capable de penser et de réfléchir, est le fruit d'un hasard et de rien du tout, et qu'il n'y a personne qui y a pensé et qui l'a dessiné, conçu, fabriqué, fait pour un... dans un but. André Froissart ajoute, si le christianisme est vrai, s'il y a une vérité, si cette vérité est une personne, qui veut bien n'être pas inconnaissable, le miracle durant un mois. Chaque matin, je retrouvais avec ravissement cette lumière qui faisait pâlir le jour. Cette douceur que je n'oublierai jamais et qui est tout mon savoir théologique. Cependant, lumière et douceur perdaient tous les jours un peu de leur intensité. Finalement, elles disparurent. Et la vérité me serait donnée autrement. J'aurais cherché, après avoir trouvé, auprès d'un prêtre. Et il a demandé le baptême. Il est devenu catholique et l'un des plus grands catholiques de ce siècle. Et dans, il dit que deux fois, la souffrance la plus grande qui puisse être infligée à des êtres humains s'est abattue sur mon foyer. Il a perdu deux de ses enfants. C'est une horreur. Mais à travers cette souffrance, il a trouvé un approfondissement de cette conviction que Dieu est amour. Il nous avait donné, en 1983, deux entrevues qui ont été diffusées en 84 au mois de mai. Les 22 et 29 mai 84. Dans la première entrevue, André Frossard parlait de sa conversion, de l'athéisme, si on peut dire, jusqu'à terminer avec Jean-Paul II. Mais dans la deuxième entrevue, il disait des choses extraordinaires. Qu'est-ce que croire en Dieu? C'était remarquable. Deux entrevues du tonnerre. Dans l'ouvrage, il y a un autre monde qui suit celui où il avait raconté sa conversion. Il reprend, comme je vous ai dit tout à l'heure, sa conversion. Et dans une nouvelle édition de Dieu existe, je l'ai rencontré, il parle un peu de ce deuxième livre et dit « Je vois bien qu'il me faudra écrire un autre livre pour expliquer certaines pages de celui-ci, là, Dieu existe, je l'ai rencontré. Les confidences qu'il m'a values m'ont appris au moins deux choses. L'une, que les conversions sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le croit et qu'elles sont gardées bien souvent secrètes. » C'est vrai, ça, hein? Peu de gens n'osent pas trop parler de ce qui leur est arrivé, de crainte, d'un entourage hostile. Et l'autre chose, dit-il un peu plus loin, que j'ai apprise, est qu'il y a, au moins, ce point commun entre les convertis, que tous ont rencontré quelqu'un. C'est ça, la conversion. Quand on est catholique de naissance et qu'on n'a pas rencontré quelqu'un qui est Jésus-Christ, il nous manque toujours l'essentiel de la foi, le fondement de notre foi. En somme, il dit bien, hein? Ils tous ont rencontré quelqu'un et non pas une idée ou un système. Ils ont, avec émerveillement, quelquefois avec stupeur, découvert une personne, le plus souvent la deuxième personne de la Trinité, comme les pèlerins d'Emmaüs. Il ajoute plus loin, il y a dans toute conversion ce moment de la fraction du pain, vous savez les disciples d'Emmaüs, au moment de la fraction du pain avec Jésus, qu'ils le reconnaissent, hein? Où l'on passe de l'idée au réel. Passer de l'idée au réel, c'est ça la foi. C'est pas des idées la foi. C'est un contact avec la réalité qui est Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a rien. Sauf si Dieu l'éclaire. Tout est vide de sens sans lui. Tout est vide de sens. Tout passe, tout lasse, tout casse, comme on dit. Il y a dans toute conversion ce moment de la fraction du pain, où l'on passe de l'idée au réel et où se révèle une personne que parfois l'on n'attendait pas, une personne adorable. Y avons-nous jamais eu, plus qu'aujourd'hui, besoin d'adoration? Ce qu'il a raison. Monsieur Noël Bonpoix a publié chez Lattès sous déclic de Brouwer ces jours-ci, à la fin de l'année dernière, c'est-à-dire, sous la signature d'André Frossard de l'Académie française, j'ai oublié de vous dire qu'il est entré à l'Académie française, j'y ai même assisté, il m'avait invité à la réception, il avait donné chez lui une magnifique réception à l'occasion de son admission à l'Académie française. J'y ai rencontré là des gens tellement merveilleux, j'ai été choyé par André Frossard. Choyé par cette amitié. Et Noël Bonpoix publie donc des choses très intéressantes. Et il y a une introduction, pas très longue, de la fille d'André Frossard, que j'ai bien connue aussi, Isabelle. Elle dit, que son père projetait d'écrire une espèce d'évangile, l'évangile d'Éder ou d'Azaël, c'était pas décidé. Comme on dit l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, alors l'évangile d'Éder ou d'Azaël, un évangile imaginaire. Elle dit l'évangile d'Éder que mon père a pu écrire au cours des derniers mois de sa vie, voilà. Conçu pendant sa maladie, mais empêché par la fatigue, le projet d'écrire une sorte de conte oriental qui lui permettrait d'exprimer par image sa conception d'évangile et des révolutions du christianisme n'a pu être conduit à son terme de son vivant. Et elle ajoute, soucieux de transmettre sa vision personnelle de la rédemption, c'est très important ça, sa vision personnelle de la rédemption et de la relation de Dieu et des hommes, il était aussi conscient de l'extrême difficulté d'une telle entreprise que ses forces physiques ne lui laisseraient guère mener jusqu'au bout. Or, il reprenait toute la pensée de Maurice Zundel, la pensée intime de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et la pensée lumineuse du Père Varion. Souvent, j'ai discuté de ces questions-là avec lui, car moi, je suis habité par ces questions-là depuis l'âge de 16-17 ans. J'ai toujours eu un problème à croire en regardant un crucifix, que Dieu, en Jésus-Christ, mourait sur la croix pour payer une dette à son Père qui exigeait ça, de par sa gloire blessée par le péché originel. J'ai toujours eu de la difficulté. Je m'en excuse, mais il me semblait que c'était attenté à l'amour que Dieu le Père nous porte, que de voir le Père comme un Dieu cruel, un Dieu qui est bien étrange. Et Isabelle Frossard écrit, le jeune Azaël, ou Éder, devait découvrir au cours de son voyage en Palestine, dans le livre de son père, spectateur lointain mais attentif des événements d'Évangile, il devait découvrir tout d'abord le judaïsme à l'occasion de longues discussions avec un rabbin, un peu isolé de sa communauté, puis, au pied de la croix, la bonne nouvelle du salut par le Christ. Mais qu'est-ce que c'est que ce salut par le Christ? Isabelle Frossard termine, on trouvera dans ce texte toutes les intuitions spirituelles de la fin de sa vie. Et l'on saura, ici et là, reconnaître de ces formules saisissantes où quelques mots suffisent à faire jaillir l'image chargée de sens. C'est un très beau texte. Noël Bonpoint, qui est occupé de l'édition, qui était un intime d'André Frossard, écrit le 2 février 1995, donc il y a un an exactement, André Frossard nous a quittés vers 2h du matin, calmement, sans se réveiller. Hier encore, nous avions travaillé ensemble, il paraissait épuisé. Il tutoie André Frossard, ce qui est un peu surprenant. Il s'agissait pour toi de rien moins que de renouveler la vision bimillénaire du christianisme. Renouveler la vision bimillénaire, ou de 2000 ans, là, du christianisme, du salut dans le Christ. De poursuivre jusqu'à ses extrêmes conséquences la logique de l'amour de Dieu pour les hommes. Tout ce qui te restait de force ces derniers mois, tu l'as jeté dans cette bataille, dans ta méditation, dans ta parole, ta volonté d'aller jusqu'au bout a même fait reculer la mort pour un temps. Quand tu parlais de ta conversion, tu comparais la grâce qui t'avait soudain envahi à une plénitude de lumière, une lumière enseignante. Et tu te retires un 2 février, fête de la présentation du Seigneur au temple, mais aussi fête des lumières. N'oubliez pas qu'il s'est converti en regardant une lumière. Dieu est lumière. Le Christ l'a dit, je suis la lumière du monde. Alors, voici le texte d'André Frossard que je trouve sublime. Il faut revenir sur la tradition. C'est délicat ce qu'il dit, hein? Mais c'est très très beau. Je le lis en entier, c'est trop beau. Il faut revenir sur la tradition. Que le Père ait pu vouloir la mort de son Fils, sa souffrance sur la croix, pour qu'il expie les péchés des hommes, est une insulte à l'amour de Dieu. Adieu, amour. Il faut en finir avec cette notion d'un Dieu de colère, d'un Dieu vengeur à notre image. Le Christ n'est pas un bouc émissaire.
Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un bouc émissaire? Je vous le rappelle, le bouc, c'est évidemment le mâle de la chèvre. Donc le bouc, c'était ce fameux bouc que les Juifs le chassaient dans le désert, après l'avoir chargé des iniquités d'Israël. Ils jetaient sur lui tous leurs péchés. Et là, ils l'envoyaient mourir dans le désert. Donc le Christ n'est pas un bouc émissaire. La crucifixion est tout simplement le meurtre de l'innocent par excellence. De l'innocent de tous les temps. Dieu ne veut pas ce meurtre. Il s'en sert seulement pour nous sauver. Il se sert du mal pour le bien. Certes, nous avons contre nous les passages de l'Écriture sur le rachat du genre humain. Ainsi, dans l'Apocalypse, au chapitre 1, verset 5, « Il nous a lavés de nos péchés par son sang. » N'oubliez pas que tout ce que je vous ai dit souvent sur le sang. Le sang, dans la mentalité juive, c'est l'âme. C'est l'âme. Si vous lisez ça, il nous a lavés de nos péchés par son sang, par son âme. C'est-à-dire que son âme, nous envahissant, illumine notre cœur, rend horribles nos péchés, nous transperce, nous transforme, et par sa présence, Dieu lui-même chasse ce qui est perverti en nous, notre petit moi imbécile. C'est comme ça que je vois ça. Frossard continue et dit aussi, Apocalypse, chapitre 5, verset 9, « Tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, langue, peuple et nation. » Et Frossard ajoute, « Mais le rachat, même par le sang, n'est pas nécessairement par expiation. Un rachat peut s'effectuer par échange, mais quel échange ? Alors, saint Paul aux Romains, chapitre 3, verset 25, dit, « Lui que Dieu a exposé en victime propitiatoire par son sang. » Et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, « Le Christ entra une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de bouc et de jeune taureau, mais avec son propre sang, nous ayant acquis une rédemption éternelle. » Alors, André Fosser ajoute, mais le mot propitiatoire de la lettre aux Romains, chapitre 3, qui rend Dieu propice, n'est pas nécessairement expiatoire, comme certains traduisent. Il ajoute, c'est très très important, et la lettre aux Hébreux, chapitre 9, parle aux Juifs de l'époque, leur langage. C'est ça, il faut se mettre dans la peau des Juifs de cette époque. Parle aux Juifs de l'époque, leur langage, celui d'une religion de sacrifice. Des sacrifices qui s'adressent à la colère de Dieu. À moins que Paul, d'origine parisienne, ne s'en soit pas totalement dégagé, ajoute André Frossard. Et nous non plus, d'ailleurs. Jésus, l'innocent, l'agneau de Dieu, est traditionnellement la victime expiatoire, le bouc émissaire qui se charge de nos péchés, les expie à notre place. Nous avons, avant tout, contre nous, ajoute André Frossard, le chapitre 53 d'Isaïe, sur le sacrifice expiatoire du serviteur, hein, vous savez, le serviteur, châtié pour tous nos crimes. André Frossard ajoute, « Mais malgré vents et marées, nous soutiendrons que le Christ, même s'il porte tous nos péchés, n'en est pas pour autant châtié, sacrifié à notre place. Le pardon de Dieu n'a nul besoin de châtiment. » Je répète, le pardon de Dieu n'a nul besoin de châtiment. Et comment le Père pourrait-il vouloir la mort de son Fils? Les Évangiles, eux, c'est ce qui importe, ne parlent jamais d'expiation. Seul Matthieu, au chapitre 20, et Marc, au chapitre 10, font dire à Jésus, « Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Que de fois on nous fait lire ça à la communion? Que ça me fatigue, moi, personnellement, je m'en excuse, mais je peux pas m'empêcher de le dire, parce que j'aime trop Dieu. Dieu n'est pas mauvais, n'est pas méchant. Comment peut-on blesser ce Dieu qui s'est révélé à nous dans tout son amour, dans la parabole d'enfant prodigue? Oh. Peut-être sous l'influence de Paul, ajoute André Frossard, aussi dans l'Épître à Timothée, Christ Jésus s'est livré en rançon pour nous. Mon Dieu, que j'aime donc pas ces textes-là. André Frossard ajoute, c'est vrai, nous avons du culot, mais je suis sûr d'avoir raison. Et Jean-Paul II, que va-t-il dire? Je lui en parlerai. Jusqu'ici, il ne m'a rien reproché. Il dit à son ami Bonpoix, « Tu sais, je l'aime beaucoup, mais il faut bien avouer que sa sotériologie ne me satisfait pas complètement. » Oui, moi non plus. Alors, Bonpoix dit, « Je le taquine gentiment. Tu oses dire cela, toi, le papiste? » Il répond, André Fossard, « Non, je ne suis pas papiste. » Même si tout le monde le pense, je n'approuve pas systématiquement le pape parce qu'il est pape, à la manière de certains catholiques. J'aime profondément Jean-Paul II, c'est différent. C'est un rocher, cet homme, un rocher tendre. Je l'aime, mais ça ne m'empêche pas d'être libre. Et alors, dans plusieurs chapitres, il revient sur toutes ces questions, d'une façon toujours de plus en plus admirable. Il dit à un moment donné, sur un chapitre intitulé « Mais qu'est-ce donc que la foi ?» Alors on écrit ici dans ce livre magnifique, je vous donne le titre, c'est « L'Évangile inachevé », publié chez Lattès et Desclée de Brouwer. Paraît-il qu'en Belgique, il faut dire de Brouwer et non de Brouwer. Enfin, c'est donc un livre d'André Frossard, « L'Évangile inachevé », qui vient de paraître. Dans le texte, on peut lire André Frossard en a donné une définition dans « L'art de croire la foi ». Ce beau livre, « L'art de croire », qui est paru, oh mon Dieu, c'est en... C'est en quelle année, ça? En 79. Croire, c'est apprendre à penser comme Dieu. L'acte de foi est l'acte intrépide, la suprême audace de l'âme, qui, s'écriant avec Sainte Catherine de Gênes, à bout de vanité mondaine, « Aujourd'hui, je sors de moi-même pour n'y plus rentrer. » Que j'aime cette parole. « Aujourd'hui, je sors de moi-même pour n'y plus rentrer. » Je laisse toute la place à Dieu, en d'autres termes. André Frossard continue que cette Catherine de Gênes donne congé à ses propres pensées. Oublie ce qu'elle croit savoir. Néglige les inutiles enseignements du doute. Prend le parti de s'exposer à l'invisible et de baptiser avec l'infini et de consacrer sa virginité à la lumière. Mais cette définition ne lui suffit plus sur ces derniers jours. Oh non, il évolue. Il dit, quand Jésus en parle, on a l'impression que le mot « foi » n'a pas le même sens dans sa langue et dans la nôtre. Il paraît désigner une sorte de vertu, une force active, mesurable. « Ta foi t'a sauvé. Si vous aviez de la foi gros comme un grain de sinevé, vous diriez à cette montagne, et ainsi de suite. » On n'est plus là dans le domaine des idées, dit André Frossard. Personne encore n'a donné de définition satisfaisante de la foi. Sans doute parce qu'il y a plus d'intérêt à la pratiquer qu'à la définir. Que c'est beau, ça. Hein? Bien plus d'intérêt à pratiquer la foi qu'à la définir. André Frossard ajoute, la foi est aussi difficile à définir que tout acte manuel simple, comme celui d'un menuisier qui rabote une planche. Plus loin, il dit, certes, Dieu nous a donné jusqu'à la liberté de ne pas croire en lui, mais le Christ paraît peu tolérant en ce domaine, comme si le manque de foi révélait chez l'être humain une impuissance, une incapacité à s'engager, à engager son esprit, son cœur. C'est ça qu'il faut engager, hein? Son esprit. Son cœur. André Frossard ajoute, et ce sont, vous savez, c'est les derniers textes qu'il a écrits de sa vie, « Étant donné sa nature divine, Jésus est effusion pure, permanente, et il souhaite que nous soyons à son image. Tout ce qui est réticent, qui se refuse chez l'être humain, comment pourrait-il l'admettre? La foi est une vertu active, je vous le répète. Sortez de vos sièges, sortez de vous-même. Hein? La foi est une vertu active, dit André Frossard, une ouverture généreuse à Dieu, sans retour sur soi, une remise de nous-mêmes qui nous rend cohérents à la générosité de Dieu. C'est un rapport de générosité. Que dire de plus ? La foi est peut-être aussi indéfinissable que Dieu, et nous voulons la définir, alors que nous en avons si peu, dit André Frossard. Dans un beau chapitre, sur comment sommes-nous sauvés. Il parle de la parole de Jésus, Eli, lama sabachthani. Il écrit, ce ne peut être que par l'acte ultime de Jésus, son acceptation de la croix. C'est comme ça que nous sommes sauvés. Et au moment de sa parole ultime, de ce terrible « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si nous avons deux points de départ et un point d'arrivée, dit le premier point de départ, c'est la création de l'homme à l'image de Dieu, pour sa ressemblance. Mais il s'est préféré, l'homme s'est préféré, hein? Il a voulu décider par lui-même, il a renié son image, il l'a contesté, il l'a abandonné. Alors d'où ces violences, ces turpitudes, ces folies, ces contradictions, tempérées s'il y a encore une lueur de raison par cette constatation qu'il n'est pas Dieu, que son identité est chez un autre. Puis le deuxième point de départ, mais c'est l'incarnation. Oh, il y a cette belle définition d'incarnation, et cette irruption de l'absolu dans l'éphémère, dont il va falloir montrer comment elle s'est faite dans la discrétion, l'humilité la plus totale, qu'on célèbre à Noël avec tout un falbala de fêtes absolument païennes. Tout ça s'est fait dans la pauvreté, l'humilité, la discrétion. L'humilité la plus totale. Il dit, il faudrait voir aussi comment cette incarnation a établi une ineffable conjugaison entre le divin, l'esprit, et la nature humaine, entre Dieu et sa créature. C'est quand nous nous appuyons sur l'épaule de Jésus, comme Saint Jean, que nous trouvons le sens de notre vie. Quand nous recevons de sa main, par la main du prêtre, son corps vivant, ressuscité, quand on écoute le beau murmure de sa parole dans l'Évangile, quand on le met en pratique. André Froissart dit, il y a certes toute la vie de Jésus, sa vie cachée, sa vie publique, sa conscience progressive d'être Dieu et d'être homme, mais dès l'incarnation, Dieu s'est engagé jusqu'au lama sabachthani. C'est le point d'arrivée. On n'a jamais bien vu ce qu'il y a d'immense, d'incroyable, de sublime dans ce cri. On n'en tire pas la conséquence logique, qui donne une autre idée de la vie chrétienne dans ce moment d'abdication totale de Dieu, où l'éclipse de divinité volontaire, où l'abandon est absolu, sans réserve, dans ce cri, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est notre cri à chacun d'entre nous, hein? Le sentiment qu'on a souvent dans des moments difficiles, mais c'est au creux de ça, hein? Le Christ lui-même crie, dit-il, l'abandon de sa propre divinité, le silence de son Dieu. C'est insensé, d'une beauté à pleurer à chaudes larmes au pied de la croix pendant 3000 ans, écrit André Froissart, à la veille de sa mort. C'est la minute qui est au centre de tous les siècles. Pourquoi Dieu donne-t-il ainsi plus que sa vie? Il donne sa vie. Tandis qu'il renonce à sa divinité, qu'il est réduit à la seule condition humaine, dans toute sa médiocrité, nous devenons par là même aptes à la condition divine. Oui. Le christianisme n'est pas une morale, écrit André Froissart, mais un appel à aimer. Le Christ nous fait naître de Dieu pour que nous devenions amour. Nous serons jugés sur l'amour. Mais par qui? Par nous, et non par Dieu. Car Dieu ne juge pas, ajoute André Froissart. Dieu n'est pas un expert comptable qui calcule les retards fiscaux et qui condamne. Non, Dieu aime. Dieu nous aime. Ces messages profonds d'André Froissart sont bouleversants. Et on pourra lire avec intérêt son beau chemin de la croix qu'il m'avait remis un soir, j'étais allé le voir. André Froissart, aussi Dieu en question, paru chez Desclée de Brouwer. André Froissart, La baleine et le ricin chez Fayard. Tous ces livres magnifiques et tant d'autres, et surtout, pour ceux qui aiment l'art, L'Évangile selon Ravenne, qu'il m'avait aussi remis un soir, je suis allé manger lui. Il m'avait dit à Raymond, beau grand champagne, ce message urgent du 5e siècle. Très beau livre sur les belles églises de Ravenne dans le nord de l'Italie.